La neige qui tombe en abondance interrompt l'entraînement. Encerclés par le gel, le froid et le vent, nous passons les journées dans nos chambres à jouer aux cartes. À la caserne, on a dressé une baraque de bain devant laquelle soldats et officiers font la queue. À l'intérieur de la cabane, obscurcie par les vapeurs, je me nettoie avec une serviette trempée dans le liquide trouble. Non loin de moi, un cercle s'est formé. Occupés à se frotter le dos les uns les autres, des officiers commentent les actualités. Le journal de ce matin annonce que le commandant Zhang Zuliang a pris Chiang Kai-shek en otage dans la ville de Tian, où lui et son armée exilée se sont réfugiés depuis 6 ans. En échange de sa liberté, il exige du généralissime que le Kuomintang se réconcilie avec le parti communiste pour la reconquête de la Mandchourie. Zhang Zuliang est un fils indigne et un coureur de jupons, se moque le capitaine Mori. Quant à Chiang Kai-shek, c'est un menteur professionnel. Il ne tiendra pas sa promesse. Il embrassera les communistes pour mieux les étrangler. Aucune armée chinoise ne peut nous défier, lance un officier qui se fait frotter énergiquement le dos par son ordonnance. La guerre civile a ruiné la Chine. Un jour, nous annexerons l'ensemble de son territoire comme nous l'avons fait avec la Corée. Leur bavardage confirme les rumeurs qui courent déjà au Japon, au sein de notre infanterie. Malgré la réticence de notre gouvernement, la conquête de la Chine devient chaque jour plus inévitable. Ce soir-là, je m'endors, détendu et heureux d'être propre. Le bruissement des tissus me tire du sommeil. Je suis couché dans ma chambre, et dans la pièce voisine, père est assis, enveloppé dans son yukata de coton bleu foncé. Mère marche. Le bas de son kimono gris-violet s'ouvre et se ferme sur un kimono de dessous rose pâle. Son visage est celui d'une jeune femme. Autour de ses yeux en amande, il n'y a pas une ride. Elle répand une odeur printanière. C'est le parfum que père a fait venir de Paris. Soudain, je me souviens qu'elle n'a plus touché ce flacon de parfum depuis le décès de père. Mon rêve disparaît. Seule demeure la douleur et la nostalgie. Enfin, ma première mission. Notre détachement a reçu l'ordre de traquer une troupe terroriste qui défie notre autorité sur le sol mandchou. Déguisée en soldat japonais, elle a attaqué une réserve militaire pour s'emparer des armes et des munitions. Durant 4 jours, nous longeons une rivière figée par la glace. Au pied d'une colline, des coups de feu éclatent. Devant moi, plusieurs soldats tombent, foudroyés. Siégeant sur les hauteurs, l'ennemi nous mitraille sans que nous puissions répliquer. Une douleur aiguë me tord le ventre. Je suis blessé. D'une main, je tâte. Aucune blessure. Simple crampe provoquée par la peur. Cette découverte me couvre de honte. Nos mitrailleuses ouvrent le feu. Couverts par leurs tirs puissants, nous donnons l'assaut. Pour réparer ma lâcheté de tout à l'heure, je m'élance à la tête de la troupe en brandissant mon sabre. Je lance 2 grenades. Elles explosent. Des jambes, des bras, des lambeaux de chair jaillissent d'un tourbillon de neige et de flammes. Ce spectacle infernal me réjouit. Je pousse un hurlement. D'un bond, je sabre un survivant qui me visait. Sa tête roule dans la neige. Enfin, je peux regarder en face mes ancêtres. Je n'ai pas terni leur nom. La bataille nous plonge dans un état second. Excités par la vue du sang, nous fouettons des captifs pour les faire craquer. Mais les Chinois, plus durs que le roc, ne bronchent pas. Lassés de ce jeu, nous les abattons. 2 balles dans la tête. La nuit tombe. Craignant un nouveau piège, nous décidons de camper sur place. Je m'endors après avoir longuement savouré la volupté mélancolique du vainqueur. Des bruits sourds me réveillent en sursaut. Les loups, las d'attendre notre retraite, se sont déjà jetés sur les cadavres.
Mm-hmm.